Suivez Priorité Santé avec Sunwa Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. La pratique d'une activité physique, chacun s'accorde aujourd'hui sur ce point, c'est un atout majeur pour notre santé. Lutter contre la sédentarité, non seulement par le biais du sport, mais aussi d'activités du quotidien, dans nos déplacements au cours de la journée, veiller à bouger, parce que rester assis toute la journée, c'est accroître le risque de douleurs, de rhumatisme, mais aussi, pour certains, pour certaines, d'atteintes cardiovasculaires, de maladies chroniques. L'activité physique comme prévention, où il est question de motivation, choisir une discipline qui nous correspond, accessible. Et lorsque l'on est déjà atteint d'une maladie après une chirurgie ou un accident, faire ce choix en concertation avec un professionnel de santé. Bouger, maintenir sa condition physique, c'est également essentiel pour la santé mentale. S'activer en veillant à bien s'hydrater, à gérer la récupération et le repos. Et nous attendons bien sûr toutes vos questions en direct pour nous joindre. Notre numéro WhatsApp, c'est le 33 761 18 46 41. Sport santé, pratique accessible, une question de bien-être, de rétablissement. Un spécialiste avec nous en studio pour répondre à toutes les questions des auditrices, des auditeurs. C'est vous, docteur Jean-Marc Seine, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Médecin du sport, médecin aussi de la Fédération française de MMA. Et en fin d'émission, on va retrouver la chronique de Bintou Chersek, nutritionniste diététicienne à Dakar au Sénégal.
Priorité santé sur RFI.
Alors, on a du bon matériau pour fabriquer cette émission. Ce sont tout simplement les questions des auditeurs. En RDC, on commence tout de suite. C'est Martial. Il n'y va pas par quatre chemins puisqu'il voudrait savoir s'il existe un sport miracle qui permet de perdre du poids rapidement. Alors, après les aliments miracles, le sport miracle, est-ce que ça existe, docteur Jean-Marc Seine?
Alors, un sport miracle, évidemment, il n'existe pas de miracle sur Terre, normalement. L'important, vraiment, dans le sport et l'activité physique, c'est de le faire régulièrement, d'y aller progressivement, de faire une activité qui est adaptée à son niveau, de le faire régulièrement. Et dès qu'on va parler du poids, évidemment, on va s'intéresser. Souvent, ce que veut dire les personnes, c'est de perdre du gras, donc on s'intéresse à la composition corporelle. Et là, l'alimentation intervient également pour pouvoir perdre ce gras. Donc, c'est un combo alimentation-activité physique avec une activité physique régulière et progressive.
Est-ce qu'il peut même arriver qu'on prenne du poids en se mettant au sport?
Oui, parce qu'en fait, on peut prendre du muscle. Et si on prend du muscle, évidemment, on va prendre du poids ou on ne perd pas de poids, mais on modifie en fait sa silhouette, on modifie sa composition corporelle. Et ça, ça s'observe à travers la silhouette, c'est-à-dire à travers un tour de taille qui diminue. Donc, on peut tout à fait avoir le même poids, voire gagner du poids, alors que l'on perd en tour de taille. Ça, c'est un bon signe.
Alors, le sport pour se sentir mieux, autre question WhatsApp cette fois, qui porte sur les bienfaits pour lutter contre certains problèmes de santé, améliorer, on va dire, le bilan sanguin. En région parisienne, Sidiki demande quel peut être l'impact du sport sur le cholestérol quand on a un taux particulièrement élevé.
Oui, alors le cholestérol, on va distinguer ce qu'on appelle le bon cholestérol du mauvais cholestérol, c'est le terme qu'on utilise généralement. L'activité physique va avoir tendance à diminuer de manière très efficace le mauvais cholestérol et à, quand elle est faite de manière régulière, à augmenter légèrement le bon cholestérol. Donc, effectivement, j'imagine que notre auditeur parle du mauvais cholestérol, et là, l'activité physique va avoir une bonne efficacité pour pouvoir le faire baisser, effectivement.
Donc, ça fait partie des recommandations.
Ça fait partie absolument des recommandations. En plus, là encore, des recommandations alimentaires.
Alimentaires, ça va ensemble. Une auditrice du Gabon, c'est Soraya. Elle a deux préoccupations complètement différentes. La première, ce sont des maux de dos localisés dans le bas du dos quand elle pratique le sport au cours de ses menstruations. C'est pour ça qu'elle demande s'il est déconseillé d'avoir une activité physique pendant cette période du cycle menstruel. Est-ce que vous pouvez lui répondre sur ce point?
Alors, on peut, à ce moment, ce qui est intéressant, s'il y a des douleurs, c'est d'avoir des activités physiques plus modérées. Activité physique modérée, douce, et il faut être particulièrement attentif, notamment quand on fait du yoga ou des éléments comme ça, à pas avoir des postures inversées. Mmh. Parce que ça, ce sont des choses qui peuvent évidemment contrer et lutter contre l'évacuation naturelle. Et donc ça, si on fait attention aux postures, si on a une activité modérée, normalement, ça doit aller.
Alors, l'autre question, elle est liée à l'activité physique et la santé mentale, puisque Soraya demande, quels sont les sports que l'on peut pratiquer pour éviter ou même lutter contre la dépression?
Ah, c'est une très bonne question parce que le sport, l'activité physique est extrêmement efficace pour lutter contre la dépression. Ça fait d'ailleurs partie des recommandations. La première chose à faire lors d'une dépression légère à modérée, c'est de commencer à faire de l'activité physique. Ça a un impact extrêmement efficace et démontré. Ça fait partie des recommandations, notamment des hautes autorités de santé. Alors, ce qui peut être fait, c'est des activités modérées et douces. Même chose, on peut marcher, faire du vélo, faire du yoga, faire du tennis, peu importe. C'est-à-dire une activité en tout cas qui va plaire, parce que c'est ça le plus important, c'est que la personne doit être bien avec cette activité. Donc ça va varier en fonction des personnes. D'autres vont vouloir faire de la lutte et d'autres vont vouloir marcher, peu importe.
La lutte,
ouais. Mais l'important, effectivement, c'est de faire cette activité qui nous est adaptée, qui nous fait plaisir et vers laquelle la personne peut retourner.
Mais des fois, on peut se poser la question, comment ça marche? Quel est le lien, justement, entre une séance de marche ou une séance, on va dire, de fitness et ce bien-être mental? C'est quoi le lien entre les deux? Parce que là, il est question de corps, il est question d'esprit. Comment ça fonctionne?
Y a des liens, il y a des mécanismes physiologiques et des mécanismes psychologiques. Les mécanismes physiologiques, c'est le fait d'aller sécréter un certain nombre d'hormones, d'endorphines, de sérotonine, de dopamine, qui sont des neurotransmetteurs et des hormones qui vont favoriser justement le bien-être. Et puis, il y a des mécanismes psychologiques, c'est le fait que les gens se rencontrent, c'est le fait d'améliorer améliorer la confiance en soi, le fait d'avoir fait même une séance de sport très simple, finalement ça montre qu'on s'est donné un objectif, qu'on a réussi, généralement on a un bien-être après, et puis ça renforce le lien social si on fait un sport collectif aussi, et quelquefois ça, le fait de discuter avec des amis, de pouvoir sourire, d'échanger autour de quelques éléments, ça fait aussi du bien.
On comprend ça, c'est très très simple en fait. Docteur Jean-Marc Sen, première auditrice en ligne, on part pour le Rwanda.
RFI à Kigali.
En ligne avec nous, c'est Jacqueline. Jacqueline, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors Jacqueline, vous avez 52 ans, vous avez pratiqué pas mal de sports différents dans le passé. Quelles activités précisément?
Au fait, j'ai joué au football et j'ai fait la natation aussi.
Mmh. Aujourd'hui, vous en êtes où par rapport à ces activités? Vous continuez ou vous avez arrêté?
J'ai arrêté, surtout la natation, ça demande un peu beaucoup d'argent et alors du coup j'ai arrêté, je ne fais plus.
Vous faites plus de natation, est-ce qu'il y a d'autres activités malgré tout que vous avez maintenues?
À part la marche, je fais au moins 40 minutes aller, 40 minutes retour quand je vais voir des gens ou quand je vais au boulot quelquefois.
Est-ce que vous avez constaté que depuis que vous avez arrêté, on va dire, vous allez un petit peu moins bien, voire même vous avez des problèmes particuliers?
Oui, j'ai des problèmes, surtout j'ai souvent mal au dos quand je m'assois pour me lever, c'est tout à fait un problème, il faut des acrobaties et c'est pas facile en fait, j'ai souvent mal au dos.
Est-ce que vous avez consulté pour ces maux de dos, Jacqueline?
Une fois j'ai consulté un médecin, mais un généraliste, il m'avait prescrit je pense, la pommade qu'on ferait, mais après c'était revenu.
Mmh. Il ne vous a pas prescrit des exercices, il ne vous a pas donné des conseils de posture ou des choses comme ça?
Si, il m'avait dit aussi, il faut que je fasse régulièrement les exercices, mais je n'en fais plus, c'est ça.
Vous en faites plus pourquoi, on va dire, parce que vous n'avez plus envie, vous êtes démotivée ou c'est un problème vraiment de temps ou carrément de douleur? Parce que quand vous mettez en activité, ça fait mal.
C'est pas un problème de temps, mais sinon c'est juste la négligence quoi.
La motivation, pas négligence parce que négligence c'est se faire du mal, donc on va plutôt dire un problème de motivation, parce qu'on va essayer d'être gentil avec vous, c'est le principe. Jacqueline, vos questions à notre invité, Dr Sen, qui est attentif à ce que vous venez de nous expliquer, je vous en prie.
Ok, ma première question est celle-ci. À cause de ces mal au dos, c'est dû à l'arrêt du sport ou bien c'est dû à mon âge aussi, parce que là, je prends de l'âge. Mmh. 52 ans, c'est pas une mince affaire aussi. Mmh. Comment je peux... Qu'est-ce qui peut me dire, qu'est-ce qui peut me conseiller en fait sur ce sujet? Mmh. Et ma deuxième question, je ne sais pas si je peux les poser les deux en même temps.
Allez-y, je vous en prie.
Quel sport je peux me conseiller le docteur Jean-Marc en fonction de mon âge et aussi afin que ma santé puisse s'améliorer.
Oui, pour aussi se débarrasser de ces douleurs du dos, on a bien compris.
Oui, d'accord, tout à fait.
Tout à fait. Donc c'est bien ça, c'est un petit peu, c'est un cercle vicieux. Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est l'arrêt du sport qui a donné mal au dos à Jacqueline ou est-ce que c'est le mal de dos qui l'a contrainte à arrêter?
Eh bien Jacqueline, bonjour d'abord, et évidemment. C'est vrai que c'est un petit peu, pour répondre, c'est un petit peu les deux. D'abord, vous êtes une jeunette, parce que 52 ans, vous êtes très jeune. 52 ans, c'est un âge qui encore où on peut faire énormément de choses. Alors, pour essayer d'expliquer, c'est qu'effectivement, c'est un peu paradoxal parce que quand on a mal au dos, la position spontanée, c'est de pas trop bouger parce que évidemment, sur le moment, sur l'instant, le fait de pas bouger permet d'avoir une antalgie. Mais sur le moyen et le long terme, le fait de pas bouger augmente la douleur. Et c'est de là que vient le paradoxe un petit peu. C'est pour ça qu'en fait, l'idée, ça va être d'essayer de faire des mouvements doux, évidemment, qui ne déclenchent pas trop de douleur, mais qui permettent de mobiliser notamment cette zone. Donc, c'est vrai que la première chose, c'est que le mouvement va être intéressant. Si c'est difficile dans un premier temps, dans la mesure du possible, c'est bien de se faire accompagner. Par exemple, avec un professionnel, un éducateur sportif ou un kinésithérapeute qui peut donner quelquefois des petits mouvements quand vraiment c'est difficile. Et la deuxième partie de la question qui était quelle activité physique on peut faire, mais je pense à... Alors,
Jacqueline, la natation, mais il y a un problème financier, parce financier. Que ça coûte cher.
Ouais. Alors, sinon, c'était un bon exercice, effectivement. Mmh. Mais sinon, par exemple, il y a des exercices comme des mouvements d'étirement, de yoga, de posture, de tai chi, qui peuvent être utilisés. Le fait de marcher, c'est une très bonne chose. Hein. Marcher peut-être comme vous le faites, mais même un petit peu plus, par période fractionnée, ça peut être une bonne chose. Et puis, vous pouvez aussi utiliser quelquefois des vélos qui sont sur place, des vélos elliptiques, hein, où on fait de l'activité sur place, ça, c'est une bonne chose. Les étirements, ça aussi, c'est une chose très intéressante. Le fait d'étirer les muscles des jambes, notamment, d'étirer le dos, de mobiliser en douceur le dos, ça, c'est quelque chose qui va faire beaucoup de bien. Et puis, faire attention à sa posture. Ça, c'est très important, de ne pas rester immobile trop longtemps, à chaque fois se lever, marcher un petit peu. Ça sera des choses qui vont vous faire beaucoup de bien, Jacqueline.
Des bons conseils, mais il y a derrière tout ça la question clé de la motivation.
Oui, alors la motivation, c'est donc tenter d'aller faire des exercices qui vous plaisent. Donc, évidemment, comme ça fait mal, bon, on l'a dit, il faut qu'il y ait quelque chose de positif qui soit un petit peu derrière. Donc, on a compris que pendant longtemps, vous aviez fait du football, donc probablement que vous aimez les éléments de jeu, peut-être, qui sont autour un petit peu du jeu. Et donc là, ça peut être intéressant d'aller chercher quelque chose comme ça autour de ludique, en tout cas autour du jeu, parce que probablement que si vous avez des amis ou de la famille et que vous vous retrouvez autour de ça, c'est quelque chose qui vous motivera peut-être, qui vous fera un petit peu plus plaisir.
Voilà pour tous ces conseils. On vous dit un grand merci à vous, Jacqueline, hein, pour cette participation. On a une question d'Émile du Bénin. Comment reprendre le sport après une élongation? Il nous pose cette question sur WhatsApp.
Alors, une élongation, c'est donc une lésion musculaire. Hein. Donc, l'important, c'est d'abord que dans la vie de tous les jours, vous ne devez plus avoir mal. C'est-à-dire que si il existe des douleurs, par exemple quand vous allez marcher, parce que vous boitez, etc., ça veut dire que c'est trop tôt pour pouvoir reprendre le sport.
On répare avant de reprendre.
Il faut absolument réparer. Et en fait, en fonction de on suppose que c'est une lésion musculaire, en fonction de l'importance de cette lésion musculaire, finalement, la reprise progressive va être plus ou moins longue. Évidemment, ça peut aller jusqu'à 8 semaines. Quelquefois, il faut jusqu'à 2 mois d'attente avant de pouvoir reprendre. Et voilà, une lésion musculaire. Toujours est-il qu'il faut essayer de faire ça très progressivement et commencer peut-être par des activités où le muscle est moins stressé, comme le vélo. Mmh. Hein, si on fait des activités de vélo, on sait qu'on contraint un petit peu moins le muscle des membres inférieurs, tout en les contractant légèrement. Et ça, c'est une bonne façon de reprendre aussi.
Voilà pour ce conseil. Maintenant, en République centrafricaine, Bangui, c'est Flavien qui nous a envoyé une question, un témoignage sur le répondeur de l'émission. On l'écoute.
Bonjour les auditeurs, auditrices de Priorité Santé. Bonjour docteur. Je m'appelle Flavien Damanda Je voulais cet avocat depuis Bangui, la capitale centrafricaine. J'ai 25 ans. J'avais subi une intervention chirurgicale en septembre 2023. Le docteur m'avait donné un avis de sortie attestant que je devais passer après 1 mois, 6 mois et 1 an. Bien avant cette intervention, je faisais tout ce qu'est sport. Et après l'intervention, le docteur m'a recommandé de reprendre le sport après 1 an. J'ai repris tout juste au mois de décembre 2024, puisque c'est après 1 an. Et lorsque je fais les abdos, je ressens des douleurs au niveau de ma plaie, comme si elle n'est pas encore cicatrisée. Et parfois, ça pique. Je devais repartir à l'hôpital pour les consultations. Mais vu que j'ai un problème d'argent, c'est pourquoi je ne suis pas encore reparti là-bas. Mais vu que vous avez mis l'émission qui touche au sport, c'est pourquoi je voudrais poser cette question. À quoi est due cette douleur que j'ai au niveau de ma plaie? La plaie n'est pas encore cicatrisée. Ou bien j'ai repris le sport trop tôt. Je vous remercie et bonne émission.
Flavien, petite précision, cette opération, c'était une opération de l'appendicite. Docteur Jean-Marc Sen, il a repris le foot, la muscu, depuis quelques mois. 1 an de pause quand même. Et ses sensations au niveau de la cicatrice. Et il se demande si c'est quelque chose, peut-être pas forcément de grave, mais pourquoi il a mal encore.
Alors, c'est pas normal d'avoir mal hein, 1 an après une opération. Donc, même si, alors j'entends le coût, le problème vraiment financier, mais ça mérite quand même d'avoir un avis, une consultation médicale, parce que évidemment, il y a les adhérences, il y a des lésions, des infections, enfin, il y a un ensemble de choses qu'il faut quand même aller vérifier et comprendre pourquoi est-ce qu'il a mal. Bon, cela, une fois que cette consultation, qui est un effort important, hein, bien évidemment, mais là, qui mérite d'être réalisée, il faudra imaginer une reprise modérée, hein, progressive. Éviter dans un premier temps tout ce qui est grande contraction des abdominaux, hein, avec notamment ce qui entraîne des rotations du tronc. Hein, souvent, c'est ce qui va, par exemple, au tennis où on va faire des rotations, ou alors en lutte hein, où on va faire des rotations du tronc. Il faut faire attention. Et puis favoriser le gainage doux, progressif. Axial, c'est-à-dire vraiment qu'on est en appui sur, par exemple, les avant-bras ou sur le côté, ça permet de renforcer comme ça un petit
Là,
peu.
Le foot qui pratique, c'est pas forcément recommandé?
Non, parce que, en fait, il y a des rotations et il
bah
y a
oui,
des changements
forcément.
d'appui. Et donc, l'idée, c'est de commencer comme ça par une préparation physique, peut-être, là, bon, c'est encore des coups, hein, mais peut-être d'être accompagné aussi, peut-être avec un kinésithérapeute dans un premier temps, au moins qu'on montre quelques exercices, voilà, peut-être une séance ou deux, simplement, pour montrer quelques exercices. Et être sûr de pas faire de bêtises. Ça, c'est vraiment la recommandation qu'on peut donner à Flavien. C'est peut-être un de consulter et puis ensuite être un petit peu accompagné dans cette reprise.
Même si on a bien conscience que ça peut être très très compliqué pour certains. On prend la direction du Togo. C'est dans la ville de Sotoubois qu'on retrouve Séverin. Séverin, bonjour.
Bonjour Caroline, comment vous allez?
Eh ben ça va bien, vous avez 64
oui.
ans d'après ce qu'on m'a raconté.
Oui.
Vous êtes un
oui.
grand sportif. Alors vous faisiez quoi Séverin comme activité?
Oui, j'ai joué un peu au football comme portier, mais surtout j'ai été arbitre de football.
Arbitre professionnel?
Oui, bon, puisque j'ai fait la première et la deuxième division.
Bah écoutez, félicitations. Vous avez arrêté quand ce métier du sport?
Oui, en 2018, bon, atteint par l'âge, je ne pouvais plus continuer, mais dans les matchs entre Gaillard et autres, j'ai continué jusqu'en 2022, quand j'ai eu un petit souci à la jambe gauche.
Vous avez eu quoi comme souci précisément? Est-ce que vous pouvez nous expliquer,
c'est
vrai?
J'étais juste allé pour courir seul, quoi. Juste un peu de jogging quand j'ai entendu un fracas au niveau de la jambe gauche. Et c'est après la radio et autres qu'on m'a déterminé que j'ai eu la rupture du tendon d'Achille couplée de la fissure de la malléole.
Oui, donc un accident assez important. Vous avez été opéré?
J'ai été opéré à la capitale. J'ai fait 6 mois dans le plâtre et après, j'ai fait 3 mois de rééducation.
Oui.
Bon, apparemment, ça va mieux. Mais comme, bon, je vais en même temps mon inquiétude, quoi.
Donc, ça veut
oui,
dire que
bon.
les suites de l'opération, ça a été plutôt bon. Vous avez repris le sport depuis?
Non, je n'ai pas repris le sport. J'en ai même peur.
Ouais.
J'en ai même peur, c'est pour ça que quand j'ai vu le sujet, j'ai dit je vais m'adresser à vous pour voir quel conseil, quel genre de sport je peux faire maintenant pour ne plus avoir le même problème.
Oui, alors très bien pour toutes, on va répondre à cette question précise. Hein. C'est vrai, juste moi un petit point, est-ce que vous avez d'autres problèmes de santé, d'autres maladies qui sont suivies par un médecin?
Oui, je suis diabétique et hypertendu.
Diabétique et hypertendu, au niveau du poids, vous en êtes où?
Bon, légèrement un peu, je suis à 78 kilos pour 1m73 de taille.
Mais comme vous avez toujours pratiqué de l'activité physique, j'imagine que jusque-là, vous étiez plutôt en forme.
Oui, bon, un peu le ventre est un peu ballonné.
Parce que vous êtes quoi? Vous êtes un gourmand ou vous buvez de la bière?
Non, pas ça. Bon, la bière, quelques fois, pas tout le temps.
Pas tout le temps. Alors, cette question que pose Séverin, il a eu donc cette rupture du tendon d'Achille, il a eu une petite fracture ou une fissure. Un grand sportif à la base, docteur Jean-Marc Sen, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est très sportif qu'on est forcément à l'abri. À un moment, ça casse.
Absolument. Bonjour Séverin. Alors effectivement, c'est vrai que le fait d'avoir, en tout cas d'avoir eu cette rupture du tendon d'Achille et 6 mois de plâtre, évidemment, la reprise doit être encadrée, en tout cas encadrée notamment, je pense, par un kinésithérapeute. Alors, compte tenu des antécédents, vous nous avez décrit diabète, hypertension, c'est bien de faire bien sûr un bilan médical pour être sûr que on n'ait pas de soucis particuliers pour pouvoir reprendre le sport. Le conseil qu'on peut donner en tout cas, c'est d'essayer de reprendre par des activités à faible impact, c'est-à-dire où les appuis ne vont pas être puissants. Par exemple, si c'est possible de refaire de l'activité dans de l'eau, je pense à de l'aquagym, je pense à des activités douces comme ça. Ça va permettre de redonner une mobilité, notamment à la cheville, aux pieds, sans impact, en douceur, pour pouvoir redonner des éléments comme ça qui vont être intéressants.
Par exemple, pas la course à pied.
Bon, l'activité dans l'eau, le vélo. Le vélo va être intéressant parce que vous allez mobiliser également la cheville, mais sans avoir cet impact. Et par exemple, vous pourrez reprendre la marche comme la marche nordique en étant aidé, par exemple, de bâtons pour pouvoir limiter les contraintes. Donc ça, les sports à faible impact, aquagym, vélo, marche nordique, pourquoi pas. Et puis, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des exercices un peu... N'hésitez pas à demander aussi à un kiné des exercices de renforcement musculaire autour vraiment du mollet et de la cheville. On parle de protocole de Stanish. C'est quoi ce protocole de Stanish? C'est le fait, en fait, d'avoir la pointe du pied sur une marche, de descendre le talon, puis de remonter comme ça, progressivement, sans à-coup, parce que ça permet d'étirer la chaîne musculaire et en même temps de la renforcer. Et ça, c'est une très bonne chose que vous pouvez faire également.
Voilà pour ces conseils. Un grand merci, Séverin, pour votre appel. Bonne journée au Togo. Toujours au sujet du diabète, on a une question de Samuel de la RDC qui voudrait savoir quels sports sont recommandés pour les personnes diabétiques.
Le mieux, c'est de faire des activités qui sont maîtrisées en termes d'intensité. Parce qu'évidemment, ce qui est embêtant pendant l'activité sportive, c'est l'hypoglycémie qu'il faut prévenir et qui peut arriver si on fait des activités vraiment qui sont trop intenses. Donc le mieux, c'est de commencer par des activités comme la marche, comme la course, comme la natation, parce qu'on est capable de doser son effort et de pouvoir savoir si on fait un effort trop important ou pas.
Et attention à l'hydratation.
L'hydratation est extrêmement importante. Et puis, si on est diabétique, on utilise de l'insuline. Ensuite, il va falloir quelquefois apprendre à maîtriser le dosage de son insuline en fonction de l'activité sportive qu'on va faire.
On comprend bien. On va poursuivre cet échange, docteur Sen. On va bien sûr prendre en ligne d'autres auditeurs juste après ce titre de Burna Boy, Bundle by Bundle, dans Priorité Santé sur RFI. When it comes to class, I beat the chat. Chop this life, make a new job. You might have a $1 million when I smile for the picture. That's why I don't put no ice in my liquor. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. My Benny, he gave me long coat. That's when we throw the money with the drum, bundle by bundle. Was okay, but I know see ya. Money go jump, okay, but I know see ya. Aye, 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 make that push. I'm gonna say you dead, yeah, if I know. Are you chancing? Are you chancing? Only base, go to meche. I trap a car when my mind no day. As long as it for my belly, me, I'm okay. Vanity, everything I vanity. As I say, money, de. Vanity for my head. Bondo by bondo. Lion know the humble for jungle. Me, I just do as I want to. Get my canna from Toronto.
Check on my non jumbo by jumbo. Benny, he me long coat. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Benny, he me long coat. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Benny, he me long coat. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Benny, he me long coat. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Who them to go to the next today? Something with them, see one thing, keep me open. Never too late. Baji, Oshé, Itamo, Wout, Betty, Mosunde. Daka Soufé, Ready Balloon Day. Do any how as long as I meet the pay. Emi fe jaye today. Emi fe jaye. Why you tell another person waiting? I tell you, I always like to say the truth and shame the devil. I know they fall that kind of level, cause I no get time for the people way to the Uru Kwalenu. Me, Mr. Nuba, nothing, I know they hear you. 100,000 people when I pull up for the venue. Why you be say I still they also wellu wellu? When I get money like it to me, elu melu. Ogbeni, Igbe mi longko. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Ogbeni, Igbe mi longko. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Ogbeni, Igbe mi longko. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Ogbeni, Igbe mi longko. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle.
Okay, was okay, but I know see. Only go down so okay, but I know see ya. Ay, 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 make that fuge. I'm gonna say you dead, yeah, if I know see ya. Are you don't see? Benny, he gave me long coat. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Benny, he gave me long coat. I saw me throw the money with the drum bundle by bundle. Bundle, bundle, bundle by bundle. Bundle, 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 bundle by bundle.
Priorité santé sur RFI, vos questions sur l'activité physique, la santé. Quelle pratique, quelle fréquence, comment bien récupérer? Pour vous répondre toujours avec nous, docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport. Question sur certains risques associés au sport de haut niveau. Réflexion que se fait Marie-Thérèse du Cameroun. Elle nous a écrit sur WhatsApp ce message, je vous le lis. J'ai l'impression que la mort subite du sportif est un phénomène de plus en plus fréquent. Quelles peuvent en être les causes? Des éléments de réponse. D'abord, c'est quoi la mort subite du sportif?
La mort subite du sportif, c'est un arrêt cardiaque avec décès chez une personne qui est en train de faire de l'activité sportive ou juste après. Ça, c'est lié à une anomalie cardiaque qui n'a pas été dépistée.
Est-ce que c'est vraiment plus fréquent qu'avant ou on en parle simplement plus?
On en parle plus. Mmh. Souvent, c'est lorsque c'est spectaculaire, parce que ça c'est filmé, par exemple, sur un terrain de foot ou autre. En fait, c'est une anomalie cardiaque non dépistée. Hein, c'est lié à ça.
Donc, en fait, on ne peut pas prévenir. Alors, à moins de faire passer un examen à tous les sportifs de haut niveau?
Alors, ça, c'est le cas. Mais même en passant les examens, il n'y a pas jamais de 100%. Mmh. Mais en tout cas, c'est le critère, c'est d'être attentif aux symptômes. Si on a des douleurs thoraciques, des malaises, des palpitations, si on sent évidemment une irrégularité de la fréquence cardiaque, ce ne sont pas des signes normaux, un essoufflement anormal. Tout ça, il faut consulter. Mmh. Et très souvent, les personnes qui font une mort subite, en fait, ont eu des symptômes au préalable, mais en fait, ne s'en sont pas inquiétées. Donc, essoufflement, douleurs thoraciques, malaise, perte de connaissance a fortiori, palpitations, voilà des signes qui doivent alerter et faire consulter son cardiologue.
On part pour le Congo.
RFI à Brazzaville, 93.2 FM.
Avec nous, c'est Evan. Evan, bonjour.
Bonjour madame.
Vous avez 27 ans, Evan, vous êtes un ancien footballeur de niveau national. Est-ce que ça veut dire que vous avez été pro, Evan?
Pardon madame.
Vous avez été footballeur professionnel?
Oui, effectivement. J'ai joué au football à haut niveau pendant un certain nombre d'années.
Ouais.
Et en 2018, j'avais la pression des parents qui ne voulaient pas que je continue avec le football, que je m'attache plutôt à mes études. Mmh. Et donc, j'avais décidé d'arrêter. Mmh.
Vous avez arrêté complètement du jour au lendemain ou vous avez arrêté progressivement, Evan?
J'avais arrêté. Non, c'était complètement du jour au lendemain.
D'accord. Et est-ce que vous avez ressenti des effets, des symptômes quand vous avez arrêté le sport intensif?
Oui, quand j'ai arrêté, j'ai remarqué des crampes intenses. Mmh. Des crampes, disons, de manière intensive. Mmh.
Est-ce que vous avez eu d'autres problèmes au niveau de la santé ou de votre morale?
Moi, je pourrais dire non, pas vraiment, c'est juste au niveau physique plutôt. Mmh.
Docteur Jean-Marc, donc il y a une question par rapport à ça, sur la survenue de ces crampes suite à l'arrêt d'une activité physique.
Tout à fait. Et je voudrais aussi préciser le saignement nasal que j'avais pendant que je pratiquais le football à haut niveau.
D'accord. Donc, il y a deux choses différentes. C'est-à-dire, quand vous faisiez du foot à haut niveau, vous aviez des saignements de nez. Et quand vous avez arrêté...
Occasionnel.
Quand vous avez arrêté, là, ce sont les crampes qui sont intervenues. Sur ces deux points, docteur Jean-Marc San, est-ce que vous avez des éléments d'explication? Même si, bien sûr, à distance, on ne peut pas donner des conclusions absolues.
Bon, voilà, on ne peut pas faire, évidemment, les diagnostics. Mais néanmoins, les premières mesures à faire lorsqu'on a des crampes, c'est de vérifier son état d'hydratation, de faire des étirements réguliers et son alimentation. On doit apporter des ions comme du magnésium, comme du calcium, voilà, comme du potassium qu'on va trouver à travers des fruits, des légumes, le chocolat, la banane, et s'hydrater correctement. Ça, c'est vraiment important de le faire. Évidemment, autour des activités sportives, bien s'échauffer progressivement, bien récupérer et bien s'étirer, ça, c'est l'élément qu'on peut donner. Si, évidemment, les crampes ont lieu en dehors de l'activité sportive, ont lieu la nuit, ont lieu de manière très fréquente et persistent longtemps, on n'hésite pas de consulter pour être sûr qu'on n'ait pas de pathologie sous-jacente. Mais ça, évidemment, on voit son médecin si ces premières mesures que je vous ai décrites, Evan, ne suffisent pas. En ce qui concerne votre saignement, alors quelquefois on a au niveau du nez, alors on appelle ça la tache vasculaire, c'est une petite zone au niveau du nez qui en fait peut saigner, où il y a une fragilité de la muqueuse. Là aussi n'hésitez pas à consulter parce qu'il y a une méthode qu'on appelle la cautérisation qui permet en fait d'enlever en fait ce saignement-là si vraiment il est gênant lorsque vous pratiquez. Et en attendant, une bonne hydratation, notamment faut humidifier vos muqueuses, bien vous hydrater pour éviter, évidemment, de fragiliser la muqueuse et de favoriser le saignement.
Evan, vous avez envie de reprendre le sport, le foot?
Justement, je voudrais reprendre le football avec le football.
Mmh. Donc peut-être consulter, oui. Aller voir le médecin avant pour lui poser toutes ces questions directement et il pourra vous éclairer et j'imagine bien vous encourager à la reprise d'une activité physique. On vous dit merci beaucoup pour votre intervention. Très bonne journée à Braza. De Douala du Cameroun, Mélanie qui a 34 ans nous pose des questions sur son tour de ventre parce qu'elle fait pas mal de sport. Hein. 2 à 3 fois par semaine, presque 1 heure, tapis, vélo, exercice, des squats, etc. Mais elle perd du poids, mais son ventre reste rond et elle aimerait justement... Elle dit d'ailleurs que ce ventre, il est rond depuis qu'elle est toute petite. Mmh. Si elle aimerait savoir si elle peut avoir une perte d'allure, enfin je sais pas comment on dit, changer sa ligne, que ce soit cette silhouette qui change à un niveau bien précis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors le ventre qui ballonne en quelque sorte, c'est bien évidemment le gras qui peut exister, mais c'est aussi la tonicité un peu des muscles. Donc faut pas hésiter, par exemple, à faire un peu de gainage, à faire un petit peu de renforcement de la sangle abdominale pour essayer un petit peu de retenir comme ça un petit peu les viscères. Si elle fait régulièrement du sport, faire attention aussi à l'alimentation. Et voilà, ça devrait réduire légèrement un petit peu ce ventre qui se ballonne un peu. Voilà, alimentation plus un petit peu d'exercice, ça devrait largement aider.
On part pour le chat, pour Djamena. En ligne avec nous, c'est Araï. Araï, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez 31 ans. Le sport pour vous, c'est à quelle fréquence?
Bon, moi, je... Bonjour d'abord, docteur Marcel.
Oui.
Bonjour, Araï.
Oui, bonjour. C'est en septembre dernier que j'ai voulu intervenir par rapport à mes questions.
Oui.
Mais entre-temps, j'avais connu un accident, donc j'ai perdu mon téléphone. L'émission de la semaine dernière qui m'a intéressé.
Est-ce que vous pouvez poser votre question par rapport à votre pratique du sport? C'est quoi exactement?
Bon, ce que je cherche à savoir, c'est que quand je ne pratique pas du sport,
oui,
je suis très lourd. Je sens des douleurs et je n'arrive pas à bien dormir. Donc, il y a une insomnie. Et quand je fais du sport, après avoir me lavé, je trouve un peu l'équilibre. Donc, j'ai consulté dernièrement, on m'avait dit que je souffre de rhumatisme. Je ressens un peu de douleur au niveau du pied. Et est-ce que le sport peut m'aider à prévenir le rhumatisme ou bien le manque de sommeil?
Donc, en fait, le cœur de votre question, c'est savoir s'il y a un lien direct entre sport et sommeil. J'imagine, docteur Sen, que vous avez des éléments de réponse sur cette question de Arai.
Oui, absolument, Arai, parce que c'est vrai que le fait de faire du sport, en fait, joue sur notre rythme veille-sommeil. Et le fait d'avoir une activité physique, effectivement, améliore en fait la qualité du sommeil. On sait que quand on fait une activité physique, on va dormir plus longtemps, mais surtout, on va dormir mieux. Et donc, ça, c'est un élément qui est tout à fait juste. Et je comprends que si vous arrêtez le sport, ça puisse dérégler cet aspect. Autre élément pour votre sommeil qui va être très important à Rai, c'est la régularité, parce que c'est l'horloge biologique interne, en fait, qui régule ce sommeil. Et régularité dans votre heure de coucher, mais beaucoup dans votre heure de lever. Et donc, s'il y a un conseil à donner, c'est bien sûr de pratiquer une activité physique, mais de vous coucher, de vous lever à la même heure. Et cette régularité va synchroniser votre horloge biologique et va améliorer ensuite votre sommeil. Ça, ce sont des choses très importantes, outre le fait de ne pas prendre, évidemment, d'excitants, d'éviter de faire des activités intensives avant d'aller se coucher, voilà, et de manger juste avant d'aller se coucher.
D'ailleurs, je vous renvoie à Rai, hein, si vous voulez en savoir plus, on a des émissions podcast que vous pouvez écouter, pas mal d'émissions qui sont spécialement consacrées à ce sommeil et au cycle du sommeil. On vous dit un grand merci, on part pour le Sénégal. Thiès, avec Abby qui nous a laissé ce message.
Bonjour, je suis Abby Ndiaye. J'ai 29 ans et cela fait plus de 10 ans que je ne fais plus de sport. Avant, je faisais de la marche pratiquement chaque jour, quelques courses de fond, 2 heures de temps par semaine. Mais maintenant, j'en fais plus par faute de temps, mais aussi par crainte, par peur d'avoir mal aux articulations. Avant, après les séances de sport, j'ai ressenti des douleurs au niveau de mes articulations, vu ma drépanocytose. Maintenant, je me demande quel sport pratiquer et à quelle fréquence pour ne pas avoir trop mal. Merci.
Abby, auditrice drépanocytaire qui a renoncé au sport à cause de douleurs articulaires, comment est-ce que vous réagissez à son témoignage ?
Alors effectivement, c'est une des conséquences de la drépanocytose, hein, les douleurs articulaires, et qui peuvent être particulièrement provoquées quand il y a des changements de température ou quand on peut prendre du froid. Alors quand on dit du froid, c'est simplement sortir par exemple, d'être découvert, etc. C'est assez facile. Alors ce qui peut être intéressant, c'est de faire des activités peut-être sans trop d'impact sur les articulations. Donc bien sûr le cyclisme, on pense au yoga, on pense au pilates, ça sont des activités qui n'ont pas tellement d'impact. Avoir une très bonne hydratation, ça c'est un deuxième chose qui est très importante. Et puis la troisième chose, c'est bien faire attention après les séances de sport, pourquoi pas de la natation si l'eau est très chaude, ça c'est vraiment important, et après les séances de sport, bien se sécher, bien se couvrir pour éviter de prendre froid, parce que ça aussi, ça peut favoriser les douleurs articulaires. Voilà, de manière générale, c'est plutôt donc une activité sans impact, avec une qualité d'hydratation, un bon échauffement, une progressivité.
Et c'est vrai que par rapport à la drépanocytose, ça a changé, hein, la vision des médecins. Avant, autant on disait pas de sport, aujourd'hui c'est plutôt le discours inverse, une activité physique est fortement recommandée. Mais évidemment, avec toute cette prévention, toutes ces précautions, oui. L'hydratation, oui. La température, des choses simples, oui. Mais absolument essentielles.
Absolument, absolument. On le sait, hein, ça va être bénéfique pour diminuer même les accès douloureux.
Alors, on a essayé de joindre Pape qui est à Dakar. On n'arrive pas, mais je vais même faire sa porte-parole. Il a 52 ans, il est très très sportif, hein, carrément 4 à 5 fois par semaine en salle, 2 à 3 heures par jour, donc on va dire que c'est vraiment un grand sportif. Mais il a réduit parce qu'il a constaté qu'il avait des vertiges en milieu de séance, après d'ailleurs un effort peu intense. Moi, quand je lis ce message, on a envie de dire à Pape d'aller consulter s'il a des vertiges ou un malaise alors qu'il est en train de faire du sport, alors que ça fait des années qu'il en fait et que jusque-là tout se passait bien, il faut vraiment aller demander des conseils.
Oui, absolument, c'est un symptôme inhabituel qui apparaît, il faut en trouver la cause. Est-ce que c'est parce qu'il existe là aussi une maladie sous-jacente ? Ou alors que le sport est mal adapté et qu'à ce moment-là, ça sous-entend que c'est une intensité d'exercice ou des exercices qui sont mal adaptés, ça, il faut en discuter. Après, effectivement, un bilan médical et être sûr que les vertiges ne soient pas liés à une pathologie.
Dans sa question, il disait « Est-ce que je dois m'inquiéter ? » C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est plus aller se rassurer, aller se renseigner.
Bien sûr. Oui. Le fait d'aller consulter, en fait, ça permet de dire « Écoutez, on a vérifié, on sait qu'il n'y a rien de grave, déjà, et donc, ça veut dire qu'il faut simplement adapter l'activité sportive. Puisque une activité sportive qui est mal adaptée peut entraîner un certain nombre de symptômes. Mmh. Et donc, c'est là où toujours la discussion, ça sera l'activité sportive. Est-ce qu'elle est révélatrice d'une pathologie ou est-ce qu'elle est mal adaptée et donc déclenche des symptômes? Et c'est ce raisonnement qu'il faut avoir. Et là, il faut être aidé d'un médecin.
Là encore, on a une question WhatsApp d'Yvon d'Abidjan. Il dit « J'ai des ballonnements qui me font mal. Quel type de sport conseiller ?» À quelle fréquence faudra-t-il pratiquer ? Le début de la question, c'est quand même ça qui compte, des ballonnements qui font mal, douloureux. Mmh. Ça veut dire là, on ne reste pas avec ça et on ne se force pas à faire du sport dans cette situation.
Absolument. Si on a des ballonnements douloureux, on parle du terme de douleur particulièrement, parce que ce n'est pas juste un petit dérangement. Là, on entend le terme douleur. Il faut comprendre. Encore une fois, pourquoi est-ce que l'on a ça ? Évidemment, vérifier qu'il n'y a rien de grave. Et sinon, à partir du moment où on parle du système digestif, on pense aussi à l'alimentation, hein, évidemment. Et puis ensuite, à l'adaptation de l'activité.
Encore une fois, parce qu'on dit consultation précoce pour éviter des complications. Ça, c'est vraiment un message qu'on fait passer au quotidien, mais sur lequel il faut absolument insister. Oui. On ne va pas se forcer à faire du sport quand on est douloureux quand ça ne va pas. On consulte.
Oui, c'est vrai que le diagnostic précoce, en fait, c'est un intérêt parce que souvent, il y a des solutions. C'est-à-dire que le fait de porter un diagnostic permettra d'abord d'identifier la cause, de trouver une solution et ensuite de pouvoir plus facilement pratiquer.
Merci docteur Sen, ça passe très vite avec vous comme d'habitude. On se dit à bientôt dans Priorité Santé. À bientôt.
À bientôt.
Avant des conseils nutrition, on en a un petit peu parlé au fil de l'émission, hein, comme ça, parce que l'alimentation et le sport, ça va aussi ensemble. Mais on va retrouver la chronique de Bintou Chersek. Mais avant cela, on va écouter le dernier des 10 candidats pour le prix RFI Découverte. Pour voter, c'est très simple, hein, on vous met le lien sur la page de l'émission aujourd'hui. Une artiste du Rwanda, c'est Bukuru avec ce titre, Nishimira. Bien manger, bien sporter à tous les âges de la vie. On va en parler tout de suite dans Priorité Santé. Avec vous, Bintou Chersek, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes nutritionniste diététicienne à Dakar et on va parler aujourd'hui, si vous le voulez bien, de la ménopause et de l'alimentation. On va commencer par définir cette période de la vie des femmes.
Oui, c'est la période qui survient en général entre l'âge de 40 et de 55 ans. C'est le stade de la vie d'une femme qui se caractérise par l'arrêt progressif de la sécrétion de ses hormones sexuelles, qui sont l'œstrogène et la progestérone. Et c'est les ovaires qui progressivement ne sécrètent plus ces hormones, et jusqu'à ce que la femme n'ovule plus, elle ne voit plus ses règles et donc elle ne peut plus enfanter.
Avec des signes, des symptômes de la ménopause.
Tout à fait, et la ménopause s'accompagne de ces symptômes d'intensité variable, d'abord les fameuses bouffées de chaleur qui sont très désagréables, les maux de tête, la fatigue, l'irritabilité, l'insomnie, l'anxiété, et la prise de graisse, la prise de poids, ça c'est en général très fréquent, surtout au niveau du ventre, et on a noté des prises de poids qui peuvent aller jusqu'à 5 kilos ou plus même, et on a aussi le risque de maladies cardiovasculaires qui augmentent pendant la ménopause ou après la ménopause bien sûr, et ainsi que la perte de masse osseuse qu'on appelle l'ostéoporose.
Alors on a dit tout à l'heure, le sujet de cette chronique, c'est bien la ménopause et l'alimentation. Quel est le lien entre les deux ?
Eh bien, il y a un lien et c'est le fait qu'il est possible de réduire certains de ces symptômes de la ménopause grâce à une certaine forme d'alimentation.
C'est une bonne nouvelle. C'est quoi justement ces possibilités ?
Alors, on peut jouer directement sur au moins trois symptômes. La prise de poids, les bouffées de chaleur et la perte de masse osseuse. Donc pour la prise de poids, c'est le moment de manger équilibré. Comme on l'a souvent remarqué, il faut manger des aliments essentiels et indispensables, beaucoup de fruits, de légumes, les féculents, etc. Et puis réduire drastiquement la consommation d'aliments sucrés et gras. Deuxièmement, il faut réduire les portions parce que les besoins diminuent avec la ménopause. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on reste sur les mêmes portions par automatisme et on n'écoute pas assez son corps pour savoir, pour comprendre que là, on a besoin de manger un petit peu moins, de sorte que si la femme continue à manger les mêmes quantités à la ménopause qu'avant, elle grossit forcément. Et le troisième point, c'est qu'il faut absolument pratiquer du sport. Et ce sont ces trois recommandations, non seulement qui vont réduire le risque de prendre du poids, mais aussi qui vont réduire le risque de maladies cardiovasculaires.
Et maintenant, du côté des conseils diététiques pour soulager les bouffées de chaleur.
Alors pour les bouffées de chaleur, il y a des études scientifiques qui suggèrent que la consommation de phytoestrogènes, qui sont des substances naturellement présentes dans certaines plantes et qui ressemblent à l'estrogène, atténue les bouffées de chaleur. Donc on trouve ces phytoestrogènes-là dans des aliments à base de soja, par exemple le jus de soja, le tofu, les préparations à base de soja, etc. Et on peut les trouver dans les grandes surfaces assez facilement.
Et maintenant, quel conseil en termes d'alimentation pour prévenir la perte de masse osseuse, qu'on appelle aussi l'ostéoporose ?
Alors, par rapport à la perte de masse osseuse, il faut porter une attention particulière aux aliments riches en calcium et en vitamine D, parce que la vitamine D, c'est ce qui permet de fixer le calcium ou d'absorber le calcium, et c'est-à-dire les produits laitiers, mais toujours allégés en matière grasse, comme par exemple le lait demi-écrémé. Le fruit du baobab, ça c'est très intéressant, parce que beaucoup ne supportent pas vraiment les produits laitiers à cause de l'intolérance au lactose, mais le fruit du baobab est trois fois plus riche en calcium que le lait, donc on peut l'inclure dans cette alimentation équilibrée. Les sardines en conserve qui sont donc qui viennent avec leurs arêtes et qui, donc les arêtes sont riches en calcium. Manger 6 œufs par semaine avec le jaune pour la vitamine D. Et s'il le faut, on peut même prendre un complément alimentaire de calcium et de vitamine D, mais toujours avec l'avis du médecin traitant.
Merci pour tous ces conseils, Bintou Chersek. Des conseils qu'on peut réentendre sur le podcast de Priorité Santé à toute heure, notamment sur l'application RFI Pure Radio. Et Priorité Santé, c'est fini. Merci à toute l'équipe qui chaque jour prépare et réalise votre émission. Ophélie Lassen, Louise Kaledek, Talim Pouo, Victor Hull et Didier Chérouze à la réalisation avec nous aujourd'hui. Demain, l'écriture qui guérit. Comment l'écriture peut agir, notamment sur un traumatisme psychique, des récits pour exprimer, des récits autobiographiques ou de fiction pour réparer. On se donne rendez-vous à 9h10 temps universel. D'ici là, restez à l'écoute et surtout, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance Burkina Faso, assureur officiel du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou.